crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs.
C'est donc le week-end Shakespeare sur France Culture et pour les regardeurs, nous rendons à notre tour hommage à ce grand auteur en nous penchant sur la peinture de Johann Heinrich Füssli, grand peintre européen de la fin du XVIIIe siècle, né en Suisse, qui a fait une grande partie de sa carrière en Angleterre et qui puise nombre de ses sujets chez Shakespeare. Aujourd'hui, nous observons une peinture inspirée du célèbre Macbeth. C'est une peinture intitulée Les Trois Sorcières que l'artiste a réalisée vers 1783, une huile sur toile de 65 cm de haut et 91,5 cm de large. Elle est conservée à la Kunsthaus de Zurich. Vous pouvez la voir en ce moment.
Nous sommes plus impressionnés par la mythologie médiévale que par la mythologie grecque, parce que les liens qui nous enchaînent à son envoûtement n'ont pas encore été brisés. Elle nous saisit d'une main énergique, nous retient par l'effet de notre superstition et d'une idée de l'honneur que la tradition nous a transmise. Les choses allaient à Raphaël et à Shakespeare. Michel-Ange et Milton allaient à elle. Johann Heinrich Füssli. Aphorisme.
Elles sont donc trois représentées à mi-corps, emboîtées les unes dans les autres comme les mutations d'une même créature. Trois visages à peine féminins, marqués par l'âge et enlaidis par les flétrissures de l'âme, si elles ont une âme. Leurs têtes encapuchonnées reçoivent les rares lueurs d'une nuit d'orage. Bras tendus, les doigts de leur main gauche, déformés par l'arthrose, se touchent comme des bêtes immondes et autonomes et semblent désigner une réalité ignoble, invisible pour nous, qui mûrit dans une nuit hideuse, tandis que leur main droite serre étrangement leur cou décharné, l'index remontant de leur menton jusqu'à leur bouche, comme pour faire siffler l'air fétide qui s'exhale de leurs lèvres pincées. Il fait noir. Tandis que les sorcières remuent dans les ténèbres un vent vicié, une vapeur humide semble monter du bas du cadre et emplir peu à peu le bas du tableau. Aucune perspective n'aère l'horizon asphyxié de l'œuvre. Improbable, en haut à gauche, un être presque transparent volette dans l'obscurité, ou plutôt flotte dans l'espace comme un fantasme. D'autres existences inavouables grouillent peut-être dans cette atmosphère putride. La peinture échappe à toute relation au réel pour se consacrer aux extravagantes hallucinations de l'esprit. Dans un instant peut-être, les trois femmes vont extirper un avorton ignoble et dégoulinant de leur chaudron et lui consacrer leurs imprécations pour qu'ils empoisonnent l'esprit de Macbeth ou le nôtre. Car ce que nous voyons nous donne accès, et c'est bien pire, à ce que nous pourrions voir. Car ce n'est pas une image que nous avons devant nous, pas un tableau, pas une peinture, mais une menace, un oracle épouvantable, une vision.
Que voulez-vous ? Légère voix. Secret. Mégère. La façon dont vous devinez les mystères. Je vous en conjure. Répondez-moi. Déchaînez les vents et jetez-les sur les églises. Lâchez les vagues pour submerger ceux qui naviguent. Couchez le blé vert. Déracinez les arbres. Écroulez les châteaux sur la tête de leurs gardiens. Penchez le faîte des tours et des pyramides vers leurs fondations. bouleverser les germes de la nature. Mais répondez à ce que je vous demande.
On entendait un extrait de la scène 1 de l'acte 4 de Macbeth, dit la scène des apparitions qui a été peinte à de nombreuses reprises. Cette scène a sûrement directement inspiré Fuseli pour cette toile. Et pour parler plus en détail de ce tableau, j'ai la chance de recevoir deux personnes éminentes. Tout d'abord l'artiste Clément Cogitor. Bonjour Clément.
Bonjour Jean.
Vous allez bien ?
Bien et vous ?
Bon, vous avez entendu, ça, c'est un drôle de monde qu'on vient de percevoir, hein ?
Ouais, c'est un monde à la fois lugubre et surnaturel.
Voilà. Alors après des études aux arts décoratifs de Strasbourg, au Frénois, cette merveilleuse école de cinéma, d'art plastique, vous avez conduit une pratique très originale entre art contemporain. Je me souviens de ce que vous avez montré au début de vers 2011, qui s'appelait Archipel, une sorte d'enquête entre l'imaginaire et le documentaire sur un sous-marin qui était rentré dans un archipel, justement.
Un sous-marin britannique échoué, voilà, à partir d'un vrai fait divers, qui petit à petit a été dévié dans une fiction épique et complètement imaginaire.
Alors, vous continuez votre travail d'artiste plasticien, mais le grand public vous a découvert plus largement à l'occasion de la sortie, il y a quelques mois, de ce film extraordinaire qui s'appelle « Ni le ciel, ni la terre », qui a été sélectionné à Cannes, qui a été sélectionné aussi pour les Césars, je crois, et qui est un film qui se passe en Afghanistan, et on a l'impression qu'on est à l'intérieur de la tête des soldats, avec un imaginaire qui se construit et qui se fabrique à l'intérieur d'un petit groupe et qui devient peu à peu, qui perd peu à peu le contact avec le monde réel.
Oui, c'est l'histoire d'hommes en guerre et qui tout d'un coup se rendent compte que leur ennemi est invisible et s'apparente peut-être à un phénomène. Et donc leurs armes et leur équipement leur est de plus en plus inutile. Et donc du coup la guerre devient beaucoup plus intérieure, imaginaire et prend un tour mythologico-mystique pour révéler chez chacun son lien à la croyance, à toute forme de croyance.
Il y a beaucoup de points communs avec Macbeth. Je regardais il y a quelques jours le Macbeth d'Orson Welles et on était dans un climat de fabrication, enfin d'image mentale qui était assez proche. Et pour explorer ce grand artiste Fuseli, je reçois Guillaume Farouk. Bonjour Guillaume, comment allez-vous ?
Bonjour, très bien.
Vous êtes conservateur en chef en charge des peintures françaises du XVIIIe siècle et des peintures britanniques et américaines au musée du Louvre. Vous avez été le commissaire d'expositions qui ont beaucoup à voir avec ce dont on va parler. Je pense à l'exposition Turner, c'est la génération d'après, mais c'est aussi un des grands personnages de l'histoire de la Royal Academy.
Ils sont croisés hein, tous les deux, Turner et Fuseli. Et Turner était un immense peintre, mais pas un très bon orateur. Et on vient d'entendre un des aphorismes de Fuseli. Fuseli était un des speakers, enfin un des professeurs de la Royal Academy. Et de temps en temps, Turner, qui était un peu apeuré par la nécessité de faire des conférences, demandait à Fuseli de venir conférer à sa place. Donc ils se connaissaient.
Il y a une grande différence d'âge, non ? Il y a 40 ans de différence d'âge, me semble-t-il, à peu près.
Oui, Fuseli est plus âgé, mais quand Turner commence son expérience de peintre, donc au début des années 1790, ce sont les grandes années de Fuseli. C'est-à-dire, Fuseli est très très visible sur la scène londonienne. Et Turner, comme il a, c'est météorite, enfin, il est très jeune, très vite reconnu, les deux se croisent et il y a une fascination, enfin, il y a une fascination réciproque peut-être, en tout cas, il y a une fascination de Turner pour Fuseli, justement, et Fuseli, il est un peu tout ce que lui n'est pas, Turner. C'est-à-dire que Fuseli, c'est un maître des corps, c'est un maître du verbe, et ça, ce sont des choses que la peinture de Turner, son art va acquérir le corps. Il y a une petite exposition qui a été présentée à la Tête Britonne il y a 2 ans autour des nus et des œuvres érotiques qu'a fait Turner et on voit que c'est quelque chose qui est une espèce de magma très très intéressant.
Fuseli en a fait aussi des œuvres érotiques.
Ah bah oui, alors là pour le coup il en a fait beaucoup et de manière très très convaincante, enfin disons moins sibylline pour le spectateur. Et Turner a essayé, s'est voulu poète. Alors, au grand dam de ses critiques, qui disait, oh là là, cette année encore, dans le livret de la Royal Academy, Turner nous a imposé ses poésies pour commenter ses tableaux. Et disons que son verbe est moins convaincant que sa peinture. Donc, les deux artistes se connaissaient.
C'est très intéressant. Alors, vous allez nous parler de Fuseli, et bien entendu, et comme vous avez travaillé particulièrement sur Lady Macbeth, on va passer des sorcières à Lady Macbeth, qui est une personne hantée, elle aussi. Et en ce moment, je rappelle que vous êtes le commissaire de l'exposition Hubert Robert au Louvre, qui est là jusqu'au 30 mai, je crois.
Oui, qui vient d'ouvrir ses portes et qui sera jusqu'au 30 mai au Louvre, et après, elle sera plus loin, elle sera à Washington. Donc
nous la traiterons avant qu'elle parte à Washington, dans l'émission Les Regardeurs, parce que c'est un artiste assez extraordinaire. Clément Cogitor, vous avez observé cette peinture étrange?
J'ai observé cette peinture étrange et je me suis replongé dans Macbeth. Et j'ai été frappé par la manière dont Shakespeare, et pour moi c'est quelque chose qui est vraiment fondateur. Et en fait, moi je me considère comme un metteur en scène et un metteur en scène d'image, puisque je n'interviens pas sur la scène, mais à quel point Shakespeare est le moment fondateur de toute dramaturgie occidentale, en fait. Comment cette manière de tresser les intrigues et de les construire, et tout ce qui a trait aujourd'hui à la dramaturgie, que ce soit la vidéo, le cinéma ou peut-être la série télé, est nourri de Shakespeare. Et là, ce qui m'a sauté aux yeux dans Macbeth, c'est cette manière de faire communiquer des mondes magiques avec le monde réel, le monde politique de l'époque, et cette manière de passer d'une scène à l'autre imaginez un monde presque quasi documentaire en termes d'intrigue de pouvoir. Quoi.
Il y a quelque chose d'étrange quand même, est-ce que ne trouvez-vous pas? Les artistes se sont passionnés pour Shakespeare. On aurait pu imaginer que dans le monde très réaliste de la peinture, ça se discute d'ailleurs, nous allons en discuter, qui pourrait être en tout cas du point de vue des moyens réalistes de la peinture du XVIIIe siècle, ce monde très imaginaire et qui perd quasiment sa spatialité normale, intéresse moins que c'est une peinture fantastique. On est presque dans une sorte de gothique noir, non?
Peut-être parce qu'elle fascine plus dans la mesure où c'est quelque chose qui n'a jamais... qui n'est pas, qui fait tellement appel à l'imagination que du coup, il y a même une scène dans Macbeth où les personnages, ça doit être Macbeth et Braco, qui se demandent si ces créatures-là appartiennent à la Terre, si ce sont des femmes ou des hommes, et du coup, la manière dont Fuseli les représente, c'est difficile. Si on connaît pas le titre du tableau, on se dit d'abord que ce sont des hommes. Ils ont l'apparence d'une sorcière par le costume, mais le visage est tellement masculin que ça en fait des créatures d'entre-deux, quoi, et que seul le peintre permet de figurer.
C'est effectivement des créatures liminales, elles sont vraiment à cheval sur deux mondes. Et dites-moi, Guillaume, est-ce que vous pensez que Fuseli, qui a peint quand même très peu de tableaux, c'est toujours été, me semble-t-il, dans des mondes oniriques? Il a échappé au monde qu'on aurait pu imaginer, le grand monde grec influencé par l'Italie.
Alors, non, pas du tout. Au contraire, ce qui est intéressant chez Fuseli, c'est qu'il commence à produire en plein essor de l'art néoclassique, du renouveau, de l'art découverte, d'Herculem et Pompéi, de l'Antiquité grecque et romaine. Donc, il s'est battu contre les colonnes. Enfin, il est contemporain, il est strictement contemporain de David, Fuseli.
C'est antinomique, non?
Oui et non. Ils se sont certainement croisés. Ils sont à Rome en même temps, dans les années 70. Ils vont voir les mêmes œuvres. Fuseli a fait beaucoup, les années 70 quand il est à Rome, Fuseli une espèce de c'est quelqu'un qui est très très doué pour se mettre en scène, et lui, pas que sa peinture, et il fait des œuvres qui sont des œuvres très hybrides, c'est-à-dire où il représente des sujets déjà shakespeariens.
Je dis juste que quand on parle des années 70, c'est 1770.
Oui, 70,
hein.
Pardon.
Voilà.
Je suis en plein dans mon sujet dans le 18e siècle. Mais il fait des œuvres où vraiment, il prévoit notamment de faire une sorte de chapelle dédiée à Shakespeare, où il y a des voûtes. Il conçoit des voûtes exactement sur le modèle des voûtes de la chapelle Sixtine, mais avec des sujets shakespeariens. Et on a une des travées qui est consacrée à Macbeth, déjà, donc 10 ans avant le tableau, qui nous intéresse. Mais il le fait avec des moyens plastiques qui sont ceux de l'Antiquité grecque. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui ont des masques d'acteurs grecs. Donc c'est en cela qui nous intéresse, c'est que c'est un artiste vraiment de l'hybridité. Il fait se rencontrer ces mondes qui, pour lui, ne sont pas antinomiques. Le monde grec, la fantasmagorie, qui est encore très médiévale, au fond. Il y a des aspects très modernes, mais il y a aussi des aspects très archaïques. chez Shakespeare. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que nous, il nous parle autant, c'est-à-dire qu'il y a, du coup, il y a quelque chose d'intemporel.
C'est ce qu'il nous disait tout à l'heure quand il disait que le lien avec le monde médiéval, la magie du monde médiéval n'était pas brisée. En fait, il va extirper cela, mais ce qu'il voit à Rome, lui, et ce qu'il a retenu, c'est plutôt le maniérisme. Il a été fasciné par Michel-Ange, non ?
Oui, mais c'est une éponge, en fait, Fuseli. En fait, ce qu'il sauve, c'est que Fuseli, au départ, c'est un artiste atypique. C'est-à-dire que, quelque part, c'est un intellectuel qui, finalement, est tombé dans l'art parce qu'il pouvait Il pouvait pas s'en empêcher. Mais au départ, c'est quelqu'un qui vient de Zurich, qui est un centre intellectuel très fort, un centre artistique un tout petit peu plus périphérique à ce moment-là. Son père est peintre, mais un peintre qui est en même temps un historien de la peinture. Donc, au fond, il a quand il fait sa formation intellectuelle de jeune homme, il a les deux directions qui sont possibles pour lui.
D'ailleurs, il se met à la peinture assez tard. C'est sur la recommandation de Reynolds, du grand artiste anglais, non ?
Alors Reynolds, ça fait un moment quand même. Il était l'assistant de son père, donc il avait quand même une pratique artistique. Hein. Il était l'assistant de son père pour à la fois ses activités intellectuelles et pour ses activités artistiques. Et quand il s'installe à Londres, parce qu'il sent que Londres c'est un centre qui est en train de devenir un centre très très intéressant.
C'est comme Clément Cogitor pourrait s'installer aujourd'hui à Berlin ou à Los Angeles. C'est un petit peu la même genre de mouvement, j'imagine.
Ouais, c'est des énergies émergentes, quoi.
C'est un moment où on se déplaçait pas mal quand même. Donc, mais de là à s'installer pendant 15 ans ou 20 ans, 35 ans.
Ouais, il a fait toute sa carrière. Enfin, à partir de 65, il revient assez peu à Zurich. Il avait un côté agit-propre. Hein. Il était même parti assez vite de Zurich puisqu'il avait fait une sorte de brûlot politique contre les dirigeants de la ville. Donc il était temps pour lui de trouver un espace qui était plus à sa mesure, ou peut-être que sa liberté de ton et sa liberté de parole pouvait s'y développer. Et justement, Londres, c'était l'espace pour ça. Et du coup, il commence à écrire des textes très intéressants quand il est à Londres sur Rousseau, sur Winckelmann, donc sur les grands penseurs de l'époque. Mais il sent aussi que ce que les artistes anglais qui n'ont pas la lourdeur de la tradition qu'on a sur le continent, en France, en Italie surtout, les artistes anglais font un art qui est beaucoup plus décloisonné, décoiffé, original, Reynolds notamment. Et il sent que du coup, son tempérament artistique, qui est très très singulier, qui est tout sauf académique, peut se développer là. Alors néanmoins, Reynolds lui dit oui, c'est vrai, vous avez quelque chose, mais allez à Rome quand même, allez voir, c'est intéressant, vous en ferez quelque chose.
Alors on va revenir quelques instants à Macbeth et on va poursuivre la découverte de Fuseli, de sa vie, de l'influence qu'il a pu avoir, mais aussi avec Clément Cogitor du monde mental dans lequel il se trouve. Mais je vous propose d'écouter d'abord un nouvel extrait de Macbeth où les sorcières décrivent les ingrédients subtils qu'elles mettent dans leur marmite.
Trois fois le chat tigré a miaulé, et trois fois le jeune hérisson a gémi une fois. Harper nous crie, il est temps, il est temps. Tournons en rond autour de la chaudière, et jetons dans ses entrailles empoisonnées crapauds, qui pendant 31 jours et 31 nuits, endormis sous la plus froide pierre, t'es rempli d'un acre venin. Bouh, le premier dans la marmite enchantée. Redoublons de travail et de soins. Feu brûle, des chaudières bouillonnent. Filet d'un serpent des marais boue et cuit dans le chaudron. Œil de lézard, pied de grenouille, duvet de chauve-souris et langue de chien, dard fourchu de vipère et aiguillon du reptile aveugle. Jambes de lézard et ailes de hibou pour faire un charme puissant, désordre, bouillé et écumé comme un bouillon d'enfer.
Merci à Claude Aufort qui est d'avoir si bien dit cette extraordinaire scène. Clément Cogitor, il y a un tableau très célèbre de Fuseli que nos auditeurs vont, je suppose, reconnaître ou imaginer immédiatement, qui s'appelle Le Cauchemar. Une jeune femme étendue sur un lit, Vous vous en souvenez?
Oui, étendu sur un lit avec un singe assis sur sa poitrine.
Sur d'un cube, crois. En fait. On appelle ça, me semble-t-il.
C'est un gnome. Enfin, effectivement, c'est encore une fois, c'est une figure complètement hybride entre l'homme et l'animal. Ouais.
Et il y a une sorte de jument ou de cheval derrière.
Je crois que la première fois que j'ai vu, c'est dans un livre d'école. Il devait illustrer un poème. Et ça. Enfin, il y a quelque chose de terrifiant là-dedans, cette présence qui est à la fois animale, à la fois humaine. Et
ça a symbolisé, on l'a retrouvé sur plein de couvertures de livres de psychanalyse, comme le symbole même de l'interprétation des rêves.
Et la gravure était chez Freud, Guillaume. Dans son cabinet. Donc voilà, donc dès le début du XXe siècle, vraiment sur le berceau de la psychanalyse, Huxley est là, un peu présent, hein, plus le titre, le cauchemar.
Vous pensez qu'il a atteint là quelque chose qui est particulier, singulier?
Ce qui est intéressant, c'est la manière dont les artistes prennent en charge la question de la signification, de la visualisation du rêve. Moi, je suis assez impressionné de voir qu'en fait, il a fallu attendre 2007 pour que des scientifiques arrivent à prouver le fait que le cerveau humain, quand il rêve, fait bien des images. En fait, que ce n'est pas une croyance, que c'est pas depuis la nuit des temps, on aurait pu se dire que c'est simplement de l'impression qu'on a au réveil, mais qu'en fait, notre cerveau les produit vraiment, ces images. Et sans cesse, le sens de ces images-là nous résiste. Enfin, ça reste un mystère, quelle que soit la civilisation dans laquelle on est, quelles que soient les pratiques qui permettent de les prendre en charge, ça résiste, quoi, c'est une énigme. Et la représentation des rêves chez les artistes, moi, me passionne, et cette image-là, elle est emblématique, en fait.
En fait, vous voulez dire que ce qui est curieux chez Huxley à cette époque-là, c'est qu'en fait, il échappe à la représentation du réel pour arriver à une représentation intérieure, vraiment du processus de la pensée.
Je pense que c'est de ça dont il s'agit, d'une espèce de raconter par la matière, puisque finalement, c'est quand même une créature physique, elle a des bras, ce qui s'apparente à un visage, mais qui en même temps est monstrueux et donc qui est inspiré, j'imagine, en tout cas nourri de moi, ça fait appel à ces gargouilles sur les cathédrales ou ces formes, qu'on trouve aussi chez Bosch, qui épouvante, quoi, des formes monstrueuses qui sont de la matière, qui sont pas de l'évanescence du fantôme ou du spectre comme on en retrouve aussi chez Shakespeare. Je pense que c'est ça qui fait leur ambiguïté. Elles sont à la fois matière et à la fois spectre.
Alors Guillaume Farou, là-dessus, il est vrai que Shakespeare peut fasciner Huxley aussi parce que ses textes sont des images. C'est des tableaux écrits quasiment.
Oui, et ce sont des spectacles très forts. Huxley, comme c'est quelqu'un qui sait très très bien gérer sa mise en scène, aujourd'hui on l'appréhende uniquement comme un peintre, parce qu'au fond c'est ce qui reste. Immense peintre, immense dessinateur.
Mais peu d'œuvres, hein, une centaine de tableaux.
En fait, il y en a beaucoup plus, mais il a fait de très nombreuses versions à chaque fois de ces tableaux.
Ah, d'accord.
Et le tableau qui nous intéresse aujourd'hui, donc la version Princeps, elle est à Zurich, mais en fait, il y en a au moins quatre autres versions qui existent. Donc il a beaucoup répété ses œuvres. Et en fait, non, c'est plutôt... Il y a plusieurs centaines de peintures, il y a des milliers de dessins. Mais c'est vrai que les compositions, elles sont moins nombreuses. C'est-à-dire qu'il a beaucoup répété les compositions, il y a beaucoup de variations à partir
Quand il répétait, pardon de cette question technique, mais quand il répétait, par exemple, le cauchemar, j'ai répété trois ou quatre fois, mm-hmm. c'est parce que le tableau avait du succès.
Oui.
Ces images ont frappé beaucoup quand c'est...
Oui, bah, c'était quand même des images très singulières. Et puis... Enfin, pour le dire aussi quand même très clairement, le cauchemar, il est très sexuel, il est ouvertement sexuel. C'est une jeune fille, elle a une robe blanche en plus, donc espèce de métaphore de sa virginité qui risque des choses, de vaciller, effectivement. Et le personnage, cette espèce d'homme très bestial qui est assis sur ses cuisses, il y a une évocation quand même très très précise de la sexualité. Et c'est intéressant parce que chez Shakespeare, la sexualité est moins monstrueuse. Dans les textes de Shakespeare, il y a souvent des allusions à la sexualité, mais c'est souvent une sexualité, disons, plus rabelaisienne. Dans l'horreur, la sexualité peut être présente, mais c'est beaucoup plus média. Hein, il y a beaucoup de filtres. Huxley étant plus jeune, au XVIIIe siècle, on peut aborder de manière un peu plus claire la sexualité. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi la singularité, la force de cette image-là et de beaucoup de ces images qui ont suscité des répliques. Et les répliques, elles sont à la fois peintes et puis quand même, il maîtrise très très bien la communication, Huxley, et beaucoup ont été gravés. C'est-à-dire que ça a été toujours, il avait c'est un moment aussi où les Anglais inventent le copyright, vraiment. Donc il a sont des sources de revenus, qui sont des ressources importantes. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, Fuseli s'intéresse à Shakespeare parce que c'est un immense auteur, et la sensibilité littéraire qui est très aiguë chez Fuseli, ça le comprend. Il comprend la qualité. Et d'ailleurs, il a même voulu traduire Macbeth. C'est Fuseli qui a fait la première traduction de Macbeth en allemand, avant même qu'il arrive à Londres, qui n'a pas été publié. C'est lui qui... Donc il s'intéresse à cette dimension-là. Mais il s'intéresse aussi au fait que, de son temps, les pièces de Shakespeare sont données à Londres, beaucoup, mais elles sont données d'une manière encore très, très édulcorée. C'est-à-dire que pendant longtemps, le public anglais a eu besoin de se réapproprier le répertoire de Shakespeare d'une manière qui soit abordable, c'est-à-dire que les pièces, le Roi Lear par exemple, la fin était changée, on faisait une fin heureuse, Macbeth était souvent transformé en opéra, c'est-à-dire que la crudité finalement du texte de Shakespeare, sa monstruosité, était difficile à aborder à l'époque de Fuseli. Et on le faisait beaucoup plus avec des performeurs, des nains. Il pouvait y avoir des nains sur scène, par exemple. Un côté plus spectacle que Fuseli a réussi à transcrire et à styliser dans sa peinture.
Alors, il faut peut-être rappeler que Macbeth, c'est l'histoire d'un régicide, donc de Macbeth qui, avec son meilleur compagnon, voit les trois sorcières qui lui prédisent qu'il sera roi, mais que ses enfants ne le seront pas. Et donc il s'inquiète et il tue le roi qu'il est censé servir. Il est obsédé par la suite de ce crime et les conséquences de ce crime. Il tue ensuite son ami parce que il comprend que ce sont ses enfants à lui qui pourraient être élu roi ensuite. Et il va de désastre en désastre, les mains couvertes de sang. Lady Macbeth qui l'accompagne, qui le stimule au début, qui s'affole ensuite. Et c'est l'organisation du délire de Macbeth qui est le vrai sujet, avec en même temps cette prédiction étrange où la forêt doit avancer vers le château et qui finit par se réaliser. Clément Cogitor, est-ce que c'est des sujets pour un artiste contemporain ?
Je pense que ça fait un sujet très fort, mais comme toute son œuvre, parce que ça fait appel à des choses qui sont tellement profondément ancrées dans la nature humaine, qu'elles font œuvre d'emblée, et que de la même manière qu'on peut le mettre en scène au théâtre, on peut s'en servir pour produire une exposition ou un film de cinéma. Et je pense à une scène du Macbeth d'Orson Welles, où on a les sorcières autour du chaudron. En fait, si on prend juste cette scène-là et qu'on la coupe, on la dégage du récit, avec cette incantation qu'on a entendue au début, en fait, elle prépare la potion. Et en fait, Orson Welles a très peu de moyens, et donc il le fait entre 2-3 feuilles de décor dans un bout de studio qu'il a dû réussir à emprunter, parce qu'à ce moment-là, il a vraiment plus d'argent. Et ça crée quelque chose de quasiment abstrait. On a que de la fumée, de l'eau qui boue et des bouts de main, parce qu'il devait pas avoir l'argent pour les costumes ou devait pas avoir suffisamment de figurants. Mais c'est extrêmement minimal et ça produit une image quasi abstraite qui est la préparation de la potion avec ce texte quasi incantatoire ou poétique des
ingrédients. Mais la situation du tableau que nous regardons de Fuseli, Les Trois Sorcières, est également très abstrait, en fait. En dehors de ces trois visages, il n'y a rien autour, on ne sait rien.
Et ce qui, moi, me frappe aussi dans le texte, c'est que la manière dont Shakespeare les fait apparaître ou disparaître, dans la traduction française, en tout cas, il dit « elles s'évanouissent ». Voilà. Oui. Donc il y a quelque chose d'extrêmement... qui est visuel, qui est écrit visuellement par Shakespeare comme un évanouissement, mais comment le représenter sur scène, ou à l'image, ou dans une image fixe ou en mouvement, par les moyens de l'époque, de la scène, qu'est-ce que c'est s'évanouir sur scène au temps du théâtre de Shakespeare, comme qu'est-ce que ça peut être s'évanouir dans une image numérique aujourd'hui.
Guillaume Farou, est-ce que le modèle de Fuseli a été le théâtre?
Oui, c'est un des deux modèles, effectivement. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de citer une jeune spécialiste française qui s'appelle Amandine Rabier, qui vient de faire une thèse très très brillante, justement, sur le théâtral chez Fuseli, et qui montre que la scène londonienne des années 70 est extrêmement stimulante, notamment en matière de décor. C'est ce que vous évoquiez, c'est-à-dire que à partir des années 70, il y a de très très grands décorateurs qui sont souvent des peintres d'ailleurs. Fustil n'a aucune expérience théâtrale, hein, il ne participe pas. Mais il voit ses contemporains, notamment un artiste franco-britannique qui s'appelle Jacques Louterbourg, qui font des décors très effrayants, complètement asymétriques, avec des formes de rochers, de gangues, des décors qui sont plus du tout des grands décors architecturaux avec des colonnes comme on faisait auparavant. Donc avec ce côté comme complètement morphique, complètement en train de changer. Qu'on trouve dans l'œuvre de Fuseli, qu'on trouve de fait dans le texte de Shakespeare, mais qui avait du mal à s'incarner dans la performance. Dans les années 1770-1780, ça devient possible, avec tout un système de châssis, avec un système de trappes, avec tout un système aussi de fumée, d'éclairage, etc., qui permettent tout ce que le texte induisait à l'époque de Shakespeare. Enfin, à l'époque de Shakespeare, les moyens étaient beaucoup plus rudimentaires. Et au fond, ce que Fuseli a très très bien compris, c'est que le spectacle est en train de changer, que le spectacle avait enfin les moyens de rendre visible ou de rendre suffisamment invisible ce que l'horreur du texte de Shakespeare suggérait pour qu'elle soit impressionnante. Le théâtre pouvait le faire, et Fuseli, dans sa peinture, qui est une peinture quand même très très atypique, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que je disais, il est contemporain de David. David, c'est un artiste, j'adore David, c'est un immense artiste, mais il a une formation académique. Ses corps sont des corps qui sont canoniques, disons, sont des belles statues. Chez Fuseli, ses corps sont très brinque-ballants, déformés. Alors, sans doute, et il l'a dit lui-même dans ses aphorismes, il disait, mais ma formation technique, elle n'est pas très bonne, donc c'est pour ça que c'est toujours disproportionné, etc. Mais justement, ça permet...
Vous avez raison, ils sont très allongés, par contre, il y a un talent du mouvement.
Ou rabougri, il peut y avoir les deux, ouais. En fait. Il y a cette idée que le corps doit se ployer à la vision. Voilà. Et au fond, ce théâtre, la scène anglaise, qui a des moyens vraiment nouveaux et très, très spectaculaires, où on peut vraiment occulter, rendre difficilement visible, moduler l'éclairage, tout ça, c'est extrêmement nouveau dans le spectacle. Et ben lui, il va le rendre aussi dans sa peinture, qui est une peinture qui, en permanence, joue sur la distorsion des formes, joue sur le non-canonique. Si pas canonique, c'est surprenant, en fait. Hein, c'est surprenant. Enfin, au fond, là, il fallait quand même que je vous le dise, mais Fuseli, c'est l'incarnation d'une esthétique complètement nouvelle qui s'élabore à ce moment-là en Angleterre, qui est l'esthétique du sublime, hein, qui est d'abord la création.
Il en parle dans ses conférences, en effet.
Oui. Beaucoup, ouais. Et il cite beaucoup donc Edmund Burke, qui est ce grand philosophe irlandais qui fait une théorie du sublime. Le sublime, ça s'oppose à la beauté. La beauté, c'est la Grèce, c'est canonique, c'est la perfection, la beauté, mais c'est complètement idéal et donc un peu casse-pied. Le sublime, c'est ce qui fait peur, c'est ce que Burke appelle la délectable horreur, hein, c'est ce qui fait frissonner. Et au fond, c'est pas beau, mais c'est vivant, mais c'est impressionnant.
Sublime, c'est les grandes montagnes d'Afghanistan dans votre dernier film, Clément Cogitor, avec l'homme minuscule qui est pris dans cette force, au fond, qui le dépasse complètement.
Oui, dans ce film, dans Ni le ciel ni la terre, j'essaie de raconter la montagne comme une forme monstrueuse, qui est peut-être surnaturelle aussi. En tout cas, au bout d'un moment, les personnages se posent la question si c'est pas la terre elle-même qui les engloutit et qui les avale un par un, puisque les soldats disparaissent dans la montagne.
Ils ouvrent la bouche de la terre.
Voilà, donné, ils creusent et ils vont finir par découvrir une grotte. Et donc il y a ce rapport de l'homme au paysage, et ce paysage qu'on suppose chargé de magie, quoi, et qui fait référence aussi à des textes auxquels les hommes sont confrontés pour interroger les mystères qui les rassemblent, en tout cas.
Alors, je vous propose, puisque vous parliez à l'instant, Guillaume Farou, des conférences de Fuseli, d'en écouter une. Écoutons un extrait d'une conférence de Fuseli intitulée « De l'imitation de la vie ». C'est une conférence de 1822.
C'est à la vie que nous devons recourir, à la vie chaude, sensuelle, génératrice pour animer les formes. C'est vers la nature et la vie que Zeuxis se tourna pour donner souffle aux formes de Polyclète et d'Alcamène. Et le mérite de Lysippe ne fut-il pas de conférer au bronze et au marbre l'aspect, la douceur, la morbidezza des transitions, l'illusion de la vie palpitante? Non seulement le pédantisme de la ligne géométriquement droite ne relève pas de l'idéalisme, mais dans la nature, c'est un solécisme. L'unité organique, objectif de l'artiste, est inséparable de la vie et le mouvement de l'unité organique. Là où se trouve unité organique et mouvement, là est le siège de la vie. le punctum saliens, d'où se propagent les pulsations par les veines et le réseau des artères, modulant et adoucissant ainsi les passages d'une partie à une autre. Des milliards de virgules et de points que crée directement ou indirectement la nature, il n'en existe pas d'eux identiques. Comment pourrait-elle donc produire des lignes droites qui sont toutes identiques et qui par définition coupent, séparent, interrompent, détruisent ?
Donc on entend bien l'idée du punctum, de l'unité organique, de la volonté de parvenir à faire du tableau un ensemble dans lequel toutes les liaisons participent à la vie. Clément Cogitor, comment est-ce que on peut imaginer qu'une œuvre qui ne soit pas la peinture, ou plutôt est-ce que la supériorité de la peinture ne serait pas d'être capable d'aller chercher des images plus mentales que ne pourraient le faire des photographies ou des films qui sont contraints par le monde réel?
En fait, je pense que toute forme artistique peut produire des représentations mentales. En fait, le réel peut être détourné, peut être dévié de manière à produire du mental avant de produire du réel, ou en tout cas de produire du mental à travers le réel, ce qui, je pense, est le propre du cinéma, en fait, d'aller raconter l'invisible à travers une réalité purement physique et visible, puisque le cinéma, c'est que ce qui se filme et ce qui s'enregistre, donc c'est que d'une réalité physique. Mais la peinture, elle, a une plus grande liberté dans la mesure où elle n'est que pigment, et du coup, elle n'a pas un objet sur lequel se reposer, mais qu'elle a un champ plus ouvert, peut-être.
Munch avait l'impression d'avoir la possibilité avec la peinture d'aller jusqu'en enfer, et que ses photographies ne pourraient pas y parvenir.
Il y a peut-être une absence de limite dans la peinture qui est vertigineuse, comme j'imagine dans la littérature la page blanche, en fait, qui permet il y a aucune limite physique, alors que le cinéma, on a la scène de théâtre, on a parce qu'on compose avec une réalité. Mais je pense que effectivement la peinture, comme la littérature, tout est possible, quoi.
Alors c'est vrai que tout est possible avec Shakespeare, parce qu'il nous fait sortir très largement des images convenues. On est au tout début, je crois que c'est vers 1610 qu'a dû être joué pour la première fois Macbeth, à peu près, enfin je me trompe peut-être de 4 ou 5 ans, mais en tout cas pour donner la période. Et Shakespeare, Guillaume Farou, ça a été une obsession anglaise, et j'ai l'impression que ça a été l'objet de beaucoup de commandes, et en particulier un éditeur qui a commandé à Fousley et à d'autres des images shakespeariennes.
Oui, Boydell, qui est un grand graveur, qui a d'ailleurs des relations commerciales avec Fousley. J'ai dit que Fousley vendait très très bien ses œuvres en les faisant reproduire par la gravure. Boydell sent que dans les années 80, ça y est, c'est-à-dire que quelque part l'Angleterre se réconcilie avec Shakespeare, se réconcilie aussi
Pourquoi
avec son
passé. Pourquoi se réconcilie ? Il y a eu un divorce ?
C'est-à-dire que, c'est très difficile à comprendre pour nous, mais l'Angleterre s'est voulue idyllique au début du XVIIIe siècle. C'est pour ça que l'Angleterre est devenue très rationnelle, etc. Parce que l'Angleterre est sortie d'un XVIIe siècle effrayant. A traversé plusieurs guerres civiles, a décapité son roi largement avant tout le monde, a connu une république puritaine, donc a vécu, comment dire, une histoire extrêmement âpre. Et le théâtre et la poésie du début du XVIIIe siècle en Angleterre est quelque chose qui a besoin de bonheur, qui a besoin de clarté, qui a besoin de raison, parce que ils sortent du chaos.
On voit bien dans l'architecture palladienne qui se développe à cette époque-là. Oui.
Exactement. Et c'est l'idée. Voilà, on fait quelque chose de stable. Bon, donc il faudra 50 ans pour que l'Angleterre finalement aborde à nouveau son passé sans avoir peur de retomber dans le chaos, dans la guerre civile. Et je pense que c'est pour ça aussi que pendant un moment, quand même, Shakespeare, il a été un peu oublié, très expurgé, parce que Shakespeare parle justement des luttes fratricides, et Macbeth, c'est pas autre chose. Donc c'est à ce moment-là que Macbeth est redécouvert, donc à partir du début de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et avec Macbeth, au fond, c'est ça qu'on interroge, c'est-à-dire comment le politique peut susciter l'horreur. Ce qu'on connaît moins en France, parce que c'est une pièce qu'on connaît moins, mais au moment où Fuseli la représente, Macbeth, c'est une des quatre pièces de Shakespeare les plus jouées, plus encore que Roméo et Juliette, parce que justement l'Angleterre a besoin de comprendre la politique, elle a besoin de comprendre cette horreur, et c'est à ce moment-là que un grand graveur de génie se dit ça y est, on a besoin de Shakespeare. Shakespeare, c'est le meilleur comme c'est le pire. Et il faut concevoir une très grande galerie avec des tableaux de très grands artistes, dont Fuseli, mais pas uniquement Fuseli. Et il y aura presque une centaine d'œuvres au final qui seront produites pour être présentées dans cette galerie, qui est une galerie payante, qui est sur l'artère principale de Londres, où les gens vont pouvoir affronter Shakespeare, et donc dans le, donc à la fois Falstaff, enfin à la fois le politique, mais côté
mais il y aura aussi farce. même de la part de Fuseli, effectivement, Le Songe d'une nuit d'été, par exemple, les tableaux de la partie comédie qui
Et le féerique.
Le féerique.
Et au fond, ce que Fuseli sait très bien faire, ce qui est aussi induit chez Shakespeare, c'est que chez Shakespeare, enfin ce qui est fascinant et ce qui devait être très surprenant aussi pour les contemporains, c'est effectivement, elles apparaissent, elles disparaissent comme à volonté. Ces sorcières, assez clairement,
c'est
quand même.
C'est ce que vous disiez, Clément, quand vous disiez elles s'évanouissent.
C'est le terme qu'utilise Shakespeare pour dire elles disparaissent ou elles apparaissent.
C'est l'évanouissement, comme ça.
L'évanouissement.
Du coup, on a plus l'impression que c'est une réalité tangible, on a l'impression qu'il y a une immatérialité du corps.
Complètement, mais en même temps, on se dit qu'il doit y avoir un effet, une machinerie de théâtre qui permet de faire fonctionner cet effet, qui doit probablement être.
Une trappe.
Ouais, une trappe, de la fumée qui apparaît, et aujourd'hui qui serait très simple à faire sur une image, mais qui à l'époque devait demander des moyens assez conséquents.
Où c'est intéressant, Guillaume, c'est que Fuseli, Shakespeare, lapsus, il est vraiment à cheval entre la modernité et une société plus archaïque, c'est-à-dire que c'est un moment où le peuple croit encore aux démons, voilà, mais les intellectuels, il est à la fin de l'humanisme, Shakespeare est à la fin du XVIe siècle, donc on commence à se dire, mais ces images-là, le surnaturel est plutôt le produit de l'homme que l'inverse. C'est ça qui est intéressant. Et ces apparitions, il y a les sorcières, mais il y a d'autres apparitions, puisque plus tard dans la pièce, Macbeth verra d'ailleurs à un moment, dans un grand banquet, il verra les fantômes de ceux qu'il a assassinés, et il est le seul à les voir. Donc Shakespeare quand même suggère quand même très fortement qu'on est dans la psyché d'un homme qui est un homme tragique, qui est un homme complet, qui est à la fois un assassin, mais et en même temps au départ c'est un brave homme, Macbeth. Donc un peu nous tous. Hein, il y a vraiment cette le meilleur et le pire chez Macbeth.
Je vous laisse le pire. mais vous avez bien raison. C'est intéressant de voir comment le Shakespeare parvient à rentrer dans la boîte en os. Vous savez, je pense parfois à Viola, à Bill Viola, qui dit toujours, mais l'inconscient, c'est un peu ce que vous exprimiez tout à l'heure. Selon lui, l'inconscient n'est pas structuré par le langage, mais c'est structuré par des images. Vous disiez plus prudemment, je crois que notre cerveau et notre rêve fabriquent aussi des images. Mais je trouve que le langage de Shakespeare aide l'image. Vous le ressentez
Ouais, ça se ressent beaucoup, et c'est vrai que on peut faire une lecture, j'imagine que beaucoup de metteurs en scène l'ont fait, mais se dire que toutes ces apparitions surnaturelles sont des pures intuitions du personnage principal et ses propres visions, donc une autre réalité physique, comme on peut le traiter de manière plus médiévale en se disant que ce sont des phénomènes surnaturels qui apparaissent. Mais c'est vrai que c'est un texte qui produit énormément d'images, et comme le rêve, comme la mémoire aussi produit des images, recrée des images à partir d'une réalité qui s'est produite.
Ni le ciel ni la terre, vous l'avez écrit vous-même? Le texte est de vous?
Je l'ai écrit moi-même avec des collaborateurs au scénario, dont Thomas Bidguin, qui écrit les films de Jacques Audiard, par exemple.
C'est particulièrement bien écrit, je dois dire. Et une question, vous savez peut-être que, d'ailleurs Guillaume va nous éclairer là-dessus, mais Lavater, qui étudiait la configuration du visage, il faisait ce que l'on appelle la physiognomonie dans la suite de Lebrun, était un ami d'enfance à Zurich, pas de Shakespeare, mais de Fuseli. Et donc, les caractères physiques, comme ça, des personnages de Fuseli, on le voit un petit peu dans ces phénomènes, vous disiez que les corps étaient ni masculins, ni féminins, avec des, etc. Il y a un aspect étude de caractère dans la représentation. Vous le ressentez quand vous regardez les tableaux de Fuseli, et est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse quand vous choisissez vos acteurs? Est-ce qu'il y a une interprétation psychologique faite par la forme du visage?
Moi, ça me passionne, en voyant les tableaux de Fuseli, de voir à quel point on est dans un visage où, enfin, il n'y a pas que les corps finalement qui sont déformés, les visages le sont aussi. Et quand on choisit un comédien, on choisit Alors moi, je m'intéresse assez peu à la, ce qu'on appelle la fiche personnage en cinéma. C'est-à-dire que
qu'est-ce que c'est la fiche personnage ?
C'est-à-dire qu'avant d'écrire le scénario, on pourrait présenter chaque personnage par où est-ce qu'il est né, comment était sa vie quand il était enfant. Ça aide l'acteur, en fait, à construire un petit peu le rôle. Voilà, moi, c'est un document qui m'ennuie beaucoup d'écrire. Par contre, j'adore, je me passionne pour l'énergie, pour le corps, pour le visage, pour ce que dégage le corps de l'acteur. Et je pense que ce corps-là est l'anti-fiche personnage. C'est-à-dire que par le clignement de la paupière, par juste la manière de saisir d'un objet, par son inconfort, par sa manière de tituber, ou au contraire de marcher de manière assurée, on raconte beaucoup plus que par cette fiche ou par cette histoire intérieure. Mais ensuite, ça a produit des résultats prodigieux dans le cinéma et dans le théâtre. Mais disons, le corps de l'acteur et sa manière qu'il a d'imprimer le réel, le paysage, et à travers cette rencontre-là, l'image de la caméra. Ça, c'est ce qui m'intéresse le plus.
Ça m'intéresse, Guillaume Farou. On a l'impression que, contrairement peut-être à Delacroix, Géricault, par exemple, on a l'impression que Fuseli, comme Turner d'ailleurs, n'a pas de fiche personnage non plus.
Non, mais il a beaucoup travaillé sur les masques, en fait.
Peu avec des modèles. Est-ce qu'il a pris des modèles, à votre avis ?
Alors, oui. Oui, il avait des modèles, effectivement. Sa femme, en tout cas. Sans aucun doute. Mais je pense que ce qui l'intéresse, c'est pas un portraitiste du tout, Fuseli. Et ce qui l'intéresse, c'est de sortir l'universel du singulier. C'est d'où ces corps qui sont des corps souvent trop grands, trop petits, trop ratatinés au contraire. Enfin, il y a vraiment cette idée une espèce d'emphase qui va amener aussi à la force de l'expression. C'est ça qu'il cherche.
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur Lavater, le rapport Fuseli-Lavater, amitié, mais aussi ce que faisait Lavater, en fait.
Alors, ils sont très proches. Lavater, c'est celui qui va pousser, sans doute celui qui va pousser le plus loin, cette idée que, au fond, notre corps, et en grande partie notre visage, trahit notre vie intérieure. Enfin, témoigne, porte la trace, etc. Et où ça devient terrible, et c'est que, parce que sans doute, mais où ça devient terrible avec Lavater, c'est que notre corps, notre physionomie porte nécessairement la trace de notre vie intérieure, et même de notre physionomie découlera notre destin, notre vie. C'est-à-dire que finalement, puisqu'on est avec un visage et un corps de cette façon, de cette forme-là, du coup, on aura tel et tel caractère, et du coup, on aura tel processus de vie.
Alors, ça a été très critiqué, parce que très positiviste, d'une certaine façon, mais en même temps, on a une sorte de réflexe mental à lire le visage de l'autre sur ce genre d'habitus, non ? Qu'est-ce que vous en pensez, Clément ?
Oui, c'est passionnant. En fait, c'est une théorie que je ne connaissais pas. Je me pose la question de l'acteur, mais aussi la question de quand on filme des personnages dans un documentaire, des personnages de la vraie vie, où souvent ce qui nous est tendu n'est pas tant le visage, mais un personnage construit par le personnage qu'on est en train de filmer. Et du coup, c'est un jeu entre le masque et le visage qui se joue souvent dans le... Et avec l'acteur et avec un personnage documentaire, je pense.
Je voudrais vous lire le texte, le portrait que fait Lavater de son ami Fuseli. Il dit « C'est le génie le plus original que je connaisse. Tout chez lui est force, plénitude et silence. Alliance de sauvagerie guerrière et de sublimité. Il est impitoyable en tout, mais peut-être docile comme un enfant à l'injonction d'un regard ou d'un signe dont il ressent la grandeur. Ses esprits sont un vent de tempête, il a pour serviteur des flammes, il marche sur les ailes du vent, son rire est moquerie de l'enfer et son amour éclair mortel. » Alors, je voudrais vous demander, Guillaume Farou, si sa proximité avec l'enfer est un trait, comment dirais-je, anticlérical, anti-ecclésial, est-ce que c'est un trait de la raison de il y a une violence, effectivement, chez Fuseli, toujours grimaçante, parfois.
Oui, c'est un homme des Lumières, quand même, Fuseli. Hein. C'est-à-dire que c'est quand même un intellectuel, il s'est beaucoup intéressé à Voltaire, à Rousseau, etc. Et après, il a beaucoup joué le mage, il a beaucoup joué, et ça m'amuse, parce que le portrait de Lavater est un archétype de Fuseli, c'est sans doute pas Fuseli. Et il me semble que justement ce que fait Lavater, C'est-à-dire que c'est assez effrayant quand on imagine que de vouloir lire la physionomie, ce soit une science, et une science qui soit prédictive, qui vraiment prédise ce qui va vous arriver, c'est assez terrible. Et je pense que Fuseli a illustré l'avatar, il a illustré les textes de l'avatar, donc il a produit les masques, il a produit des modèles de mains aussi, qui seraient censés exprimer ceci ou cela. Fuseli comprend que ce sont des archétypes,
ce
sont
des modèles. Chez Bertillon, ce genre de choses, hein, ça nous amène jusque-là ensuite. Hein.
Mais je pense que Fuseli, il est toujours beaucoup plus malin, beaucoup plus fin.
Oui.
Et après, il vient quand même, il a un background religieux, puisqu'il a même une formation de pasteur au départ, puis il va vite se défroquer. Donc, vous voyez, il est un peu...
Parce qu'il a une formation libertine à Rome aussi,
oui,
sa vie de pasteur.
Et c'est un pan qui est très très intéressant, toute la production érotique, parce que c'est une des plus riches, des plus explicites. Et c'est un très grand artiste, c'est un très très grand artiste érotique, Fuseli.
Mais vous avez travaillé vous-même sur Fragonard,
oui,
érotique
oui,
en particulier.
Oui.
Donc il y a aucun point commun, c'est pas du tout le même type de libertinage, si.
Pas du tout, vraiment. Ça m'intéresse parce que ça serait un peu Caribéci là, Fragonard et Fuseli. C'est-à-dire que Fragonard, il y a beaucoup beaucoup de l'érotisme de ses contemporains, mais Fragonard va s'arrêter où commence Fuseli. C'est-à-dire que chez Fragonard, en gros, quand même, il est question de deux adultes consentants qui se font plaisir. Voilà. Sauf que ça marche pas toujours comme ça. Et Fragonard n'est pas Sade, mais Sade existe. Et Fuseli, il est pas loin de Sade, en revanche.
Oui.
Et chez Fuseli, il y a vraiment des... Là, pour le coup, il y a comment dire, toute la scénographie amoureuse, toute la mise en scène amoureuse, toute la contrainte aussi qui peut avoir lieu. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus, par rapport aux données sociales qu'on pourrait attendre, malheureusement, au XVIIIe siècle, le viol, il se fait plutôt contre la femme. Dans l'œuvre de Fuseli, pas trop, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce sont les femmes qui violent les hommes. De ce point de vue-là, il est très intéressant, parce que on sent que c'est quand même quelqu'un qui est extrêmement malin, qui est extrêmement intelligent, et qui renverse en fait les attendus, notamment en matière de sexualité. Et on a des dessins qui sont extrêmement, extrêmement frappants de ce point de vue-là. Il a cette image de la femme qui est une image qui est l'inverse de ce qui se passe à l'époque. Enfin, la femme reste quand même un personnage qui est en grande partie dominé socialement. Chez Fuseli, la femme est un personnage prééminent.
Il a eu un grand traumatisme amoureux en partant de Zurich, puisque vous parliez du cauchemar tout à l'heure, c'est elle, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est
Anna
elle.
Anna Landolt, voilà.
Redites-le.
Anna Landolt, qui est la nièce de l'avatar et qui n'a pas répondu à l'amour de Fuseli. Et on pense, on croit qu'effectivement, la jeune femme du cauchemar, qui est quand même au bord du viol, elle-même, ce serait une sorte de réponse à la frustration que...
Parce qu'au dos du tableau, il y a son portrait également.
Il y a le portrait d'une jeune femme qui pourrait être elle. Oui,
double face.
Qui pourrait, oui, effectivement. Mais il y a une frustration après un traumatisme. Enfin, sans doute. Il a l'air d'avoir une vie amoureuse assez riche, Fuseli, qui, ça me réjouit pour lui. Hein, mais qui est du coup une là encore. Enfin, je pense qu'il prolonge. Il va plus loin que Shakespeare de ce point de vue-là. C'est-à-dire que il y a une manière d'aborder la sexualité qui est extrêmement extrêmement riche, extrêmement sophistiquée. Et de ce point de vue-là, c'est pour ça que c'est assez du Freud, c'est-à-dire qu'il y a il peut y avoir un aspect terrifiant dans la sexualité, en tout cas elle est souvent chez Fuseli.
Clément Cogitor, c'est peut-être aussi parce qu'il y a une noirceur chez Fuseli qui prélude un peu à ce que sera le gothique noir, anglais, magique, où chaque femme est une menace, où chaque homme est une menace pour chaque femme, je ne sais pas dans quel ordre.
Les femmes sont des menaces hein, dans Macbeth, quand même, juste.
Oui,
parce que justement, on a ces sorcières dont on ne sait pas très bien. On dit, oh là là, elles ne sont pas très féminines, mais on insiste bien sur le fait que ce sont des femmes. Et puis, il y a surtout Lady Macbeth, qui est quand même le grand personnage, c'est elle qui tire toutes les ficelles, mais qui finit aussi quand même par être détruite par son ambition.
C'est une Médée un peu.
Une Médée encore, elle s'en tire. Médée, elle tue ses enfants, c'est affreux, mais enfin, elle s'en tire. Dans Lady Macbeth, elle meurt, enfin, elle se suicide quand même à la fin. Et c'est le grand personnage. Ce qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, c'est m'avait beaucoup amusé quand j'avais travaillé sur la Lady Macbeth de Fuseli, qui est un tableau très très fort, qui est au Louvre, hein, que j'invite les visiteurs à venir admirer chez nous. On a une seule œuvre, mais enfin une très grande œuvre, et macbethienne,
faites-nous,
et shakespearienne.
Faites-nous la passer, je vais la montrer à Clément Cogitor, qui va nous dire comment il la trouve.
Et donc cette Lady Macbeth au XVIIIe siècle, on trouve que les textes que Shakespeare lui met en bouche sont tellement forts que toutes les grandes actrices du XVIIIe siècle, mais aussi tous les grands acteurs, jouent Lady Macbeth. Garrick, par exemple, qui est le grand acteur du XVIIIe siècle, celui qui ressuscite Shakespeare à Londres, joue les monologues de Lady Macbeth. Et ce qui m'amuse beaucoup, c'est quand c'est Lequin, qui est un grand acteur français parisien, vient à Londres dans les années 1770, on lui demande de jouer, lui, un homme, le grand monologue de Lady Macbeth, parce qu'on considère que c'est un texte tellement, tellement fort, tellement puissant, qu'au fond, ça transcende les gens.
Clément Cogitor, vous avez l'image sous les yeux, vous pouvez nous la décrire, qu'on voit un peu tous.
Alors, elle tient
de quoi il s'agit.
Elle tient une chandelle, et en même temps, ça pourrait ressembler à une épée, elle est debout, elle a le doigt levé, le bras et le doigt levé. Et alors, ce qui me frappe, c'est l'expression qu'elle a dans son visage, parce qu'à la fois, c'est une furie, et en même temps, on la sent tremblante de peur.
Elle est affolée un peu.
Elle est affolée, et en même temps aussi, dans le récit, elle est en partie à l'origine de tout ce bain de sang, quoi, qui se produit. Et je trouve que ce qui se passe dans son visage, dans son regard, c'est cette contradiction entre cette capacité à déclencher la barbarie qui va se jouer sur scène et en même temps l'effroi devant ce qui se produit, quoi.
Ce qui est fascinant dans ce tableau, c'est que ça représente une scène très précise, hein. C'est la dernière apparition sur scène de Lady Macbeth. Donc quand elle a fait perpétrer tous ses meurtres et qu'elle est devenue elle-même reine d'Écosse, mais elle est sleepwalking, elle est somnambule, donc elle est complètement dans ses rêves, elle vit son cauchemar, et elle montre sa main, et elle est persuadée que sa main est couverte de sang, et qu'elle ne peut plus retirer les taches de sang, qui est le sang qu'elle a fait couler. Et ce qui est très très fort dans le tableau de Fuseli, c'est que alors la main est brandie vers nous, mais on la voit pas très bien, elle est dans l'ombre. Donc c'est une espèce d'exhibition paradoxale, c'est-à-dire qu'on nous montre une main qu'on voit pas, et en revanche, elle nous regarde. Le regard est tourné vers nous, c'est un regard qui est complètement affolé, et il nous regarde sans nous regarder, puisqu'elle est complètement dans son rêve, elle est dans son horreur, elle est dans son cauchemar, elle est vraiment dans sa fantasmagorie. Ça, c'est très Fuseli, c'est très très Fuseli, c'est-à-dire qu'on est dans une exhibition, mais qui est une exhibition à la fois très très forte, très puissante, et alors là, irréductiblement ambiguë.
Mais on dérobe effectivement, Clément Cogitor, me semble-t-il... des indices essentiels, quoi.
C'est ça, cette manière de montrer sans montrer, c'est... C'est d'une intelligence prodigieuse. Ouais, c'est...
Il y a toujours de l'obscur au fond de Fuseli, j'ai l'impression, ou de l'indécis. Les personnages évoluent dans
ténèbres,
émergent de des ténèbres.
Cette impression-là constante. Ouais. Ils sont découpés par des lumières aussi très, très latérales. Je dirais pas caravagesque, mais il y a cette idée de. Ils pourraient être sur une scène, en fait, aussi, assez vite. C'est-à-dire que cette lumière, ça pourrait être celle des projecteurs de la scène directement. Quoi.
Mais ils n'avaient pas, comme vous, dans vos films, des systèmes pour voir la nuit, comme ça.
Caméra infrarouge.
Caméra infrarouge qui donne une matière incroyable à la lumière.
Ouais, je me dis que peut-être que si ça existait du temps de Shakespeare, ça aurait été des machineries de théâtre possibles, l'infrarouge ou la caméra thermique. En tout cas, celle aujourd'hui, ça permet de raconter les mêmes choses. En tout cas, d'essayer.
Merci Clément Cogitor. Vous préparez un film en ce moment ?
J'écris.
Vous écrivez un nouveau film ?
Un nouveau film, ouais.
Vous avez déjà le titre ?
Je l'ai en tête, mais je le laisse un peu voyager dans ma tête avant de l'envoyer dans le vaste monde.
Une tête dans laquelle se fabriquent des images. Merci. Merci Guillaume Farou. On a hâte de venir découvrir votre nouvelle exposition Hubert Robert au Louvre.
Venez.
Vous en préparez une autre encore ?
Oui,
ensuite.
Après.
Quel rythme ?
Oui, c'est un rythme un peu frénétique, presque shakespearien. On prépare une exposition sur un amateur du XVIIIe siècle, le comte Tessin, qui était un amateur d'images érotiques notamment. Enfin, plus souriante que celle de Fuseli.
Merci Guillaume.
Merci à vous.
Sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs, en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, sur le thème de Shakespeare et sous le signe de Macbeth, nous avons observé la peinture des Trois Sorcières, réalisée par Johann Heinrich Fussli vers 1783 et conservée à la Kunsthaus de Zurich. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques évoquées pendant l'émission sur le site franceculture.fr. Attaché d'émission et site internet Sylvia Favre, merci Sylvia. Lecture des textes, la belle voix de Claude Aufort. À la technique, Philippe Palares. Réalisation, Anne-Pascale Desvignes. Merci Anne-Pascale. Les Regardeurs, une émission de Sandra Adam et Jean Deloisy. Et, dans quelques instants, Catherine Libert et Ville Monde.
Go to bed. Before you go back, go until you come, babe. Come until you go back. To go.